On est devant une transition.
Moïse, Josué ne sont plus. Il n'y a plus un leader national. Même les juges, si vous lisez bien les récits des six juges principaux, à part Othniel, qui probablement a pu recruter l'ensemble du peuple d'Israël, Déborah, qui a réussi à motiver une demi-douzaine de tribus, pratiquement tous les juges étaient des juges que j'appellerais régionaux et exerçaient leur pouvoir sur une région géographique restreinte. Ce n'est plus Moïse et Josué. Quelle est donc l'autorité en Israël? Alors, il y avait d'abord les anciens. Et vous vous souvenez que c'est Moïse qui avait établi dans chacune des tribus des anciens et qui s'occupait de toutes les affaires de la tribu, sur le plan donc juridique et ainsi de suite. Il jugeait des affaires sur le plan donc tribal. Ces anciens, parfois, se réunissaient en assemblée générale, c'est comme dans nos églises, hein, mais ils se réunissaient en assemblée générale, et dans le livre des juges, il y a deux assemblées générales. Une première, au chapitre 1, que nous regarderons bientôt, deuxième, au chapitre 20, où tout Israël se réunit devant un problème à résoudre. Mais il n'y a pas de leader national. Il y a des juges, le plus souvent régionaux. Donc les anciens. Et puis il y a la prêtrise. Les lévites, les sacrificateurs, eux œuvraient sur le plan national, enseignaient la parole et finalement s'occuper du sanctuaire, tabernacle, à l'époque. Dans le livre des juges, le rôle des lévites n'est pas glorieux, et le plus souvent même désastreux, nous le verrons. Mais c'était les deux autorités principales, les anciens dans chaque tribu, et la prêtrise, lévite et sacrificateur, qui finalement exerçaient leur pouvoir sur l'ensemble du territoire. Les Lévites habitaient dans 48 villes réparties sur le territoire et leur rôle était d'assurer la transmission de la loi, de la parole, ce qui faisait très mal. Puisque souvent les anciens et les Lévites ne fonctionnaient pas comme ils devaient fonctionner, il y avait donc les dérapages, le désordre, le chaos, et donc Dieu a suscité des juges qui étaient donc des sauveurs qui menaient le peuple sur le plan militaire. C'était à l'époque l'autorité en Israël. Anciens, lévites, prêtres et périodiquement des juges. Et ce qui a conclu à la fin du livre des juges, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Autrement dit, il y avait une absence d'autorité. Il y avait un manque de leadership, un manque d'autorité. Et donc, cela a introduit, comme vous le savez très bien, la monarchie par la suite. Maintenant, le menu du livre. Encore une fois, je pense que le menu, vous le connaissez bien, on va le parcourir rapidement. Je vais essayer de ne pas trop me perdre. Il y a quatre étapes répétitives dans l'histoire des juges. D'abord, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est cyclique. Comme nous l'avons lu en début du livre des juges, À chaque fois que le juge était en place, Israël obéissait. Mais dès le moment que le juge mourait, Israël à nouveau s'éloignait. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est quand même étonnant. Quand on se rend compte de tous les privilèges de ce peuple, quand on se rend compte de la libération de l'Égypte, la traversée de la mer des Jonques, la manière dont Dieu a pourvu à tous leurs besoins pendant le pèlerinage dans le désert, nourriture, eau, un verset que toutes les femmes aiment, surtout quand ils ont de nombreux petits-enfants, le texte dit « leurs souliers ne s'usèrent point ». Vous vous rendez compte ? Dieu a pris soin d'eux sur le plan de la santé. Dieu a parlé sur le mont Sinaï. A parlé. Tonnerre, feu. Le peuple était terrifié. À tel point que le peuple a dit à Moïse, on ne veut plus écouter Dieu. On ne veut plus entendre sa voix. Toi, tu peux aller l'entendre et tu nous transmets ses paroles. Ils ont entendu Dieu leur parler. Et puis ils ont traversé le Jourdain. Ils ont vécu Jéricho. Ils ont vécu les 7 ans de conquête sous Josué. Et ils ont vu l'intervention de Dieu. Et pourtant, ce qui met en évidence notre capacité à nous tous à l'oubli. À l'oubli. Et c'est pour ça que j'ai lu ce texte de Deutéronome 4, 23. Prenez garde pour que vous n'oubliez pas. Et c'est pour ça que dans l'Écriture, à combien de reprises nous avons cet appel à souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Qu'est-ce que nous faisons le dimanche matin lorsque nous prenons le pain et le vin? Se souvenir, se souvenir. Nous avons besoin de nous rappeler constamment des grandes étapes de notre cheminement de foi. Mais les Israélites firent à nouveau ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ensuite, ce qui est encore plus difficile peut-être, l'Éternel les vendit entre les mains de leurs ennemis. L'Éternel les livra dans certaines versions. Mais c'est un acte commercial. Ce n'est pas tout simplement l'Éternel les a laissés faire. L'Éternel a permis à ce que tel ou tel ennemi se lève contre eux. Non. C'est intentionnellement que Dieu les a vendus entre les mains de leurs ennemis. Et là, il y a un acte de grâce. Puisque c'est une œuvre de salut, un livre de salut. Si Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis, les a vendus entre les mains de leurs ennemis, c'est parce qu'il veut, il veut qu'ils reviennent à la repentance. Il y a une part de jugement providentiel, souvent, dans ce que Dieu fait. Mais même dans ces jugements providentiels, il y a aussi un appel à la repentance. La discipline dans le plan de Dieu n'est jamais un but en soi. C'est un moyen vers un but, et ce but, c'est la restauration. C'est la repentance. Donc, ceux qui veulent prétendre que cela fait preuve de la cruauté de Dieu n'ont rien compris du message de la Bible. Lorsque Dieu vend son peuple, l'un de ses enfants, entre les mains d'un ennemi, c'est pour que cet enfant ou ce peuple puisse se rendre compte de leur égarement et revenir à Dieu. Ce qui est étonnant dans le livre des Juges, c'est de constater la durée du temps avant que le peuple ne revienne à Dieu. Lorsque, finalement, dans le récit avec Éhoud contre les Moabites, le texte dit délibérément, que ça a duré 18 ans. 18 ans avant que le peuple ne revienne vers l'Éternel. Ou encore avec Jephthé devant les Ammonites. 18 ans. Ou du temps de Gédéon, lorsque finalement le pays était dévasté, ravagé. 7 ans. Ce que ce texte met en évidence, c'est l'importance d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Et lorsqu'il y a un moment de sécheresse, un moment finalement d'éloignement, que nous puissions ne pas nous éloigner de la communauté et que ceux de la communauté s'estiment et s'arrogent le droit d'être gardiens de leurs frères. Parce qu'il est beaucoup plus facile de repêcher quelqu'un qui est sur le point de s'éloigner que de repêcher quelqu'un qui s'est éloigné. Nous sommes gardiens de nos frères à cet égard. Et ce texte doit nous rappeler que la durée d'un éloignement et les conséquences d'un éloignement peuvent être vraiment catastrophiques dans la vie de quelqu'un. Et ça peut durer longtemps. Vous savez, il y a deux catégories de personnes qui s'approchent de la mort. Il y a les personnes qui s'approchent de la mort et qui se convertissent à la dernière minute. Et je dis, mais c'est seulement j'avais su. Toutes ces années que j'aurais pu finalement utiliser autrement. Et puis il y a l'autre catégorie, la personne qui est convertie depuis un certain temps. Et puis, au moment où la mort s'approche, lui aussi commence à se rendre compte de toutes les occasions manquées. Si seulement, si seulement. Nous avons besoin les uns des autres pour nous stimuler finalement à la piété, nous stimuler à notre marche avec Dieu. Parce qu'un éloignement, s'il n'est pas rapidement arrêté, peut durer fort longtemps avec les conséquences parfois vraiment désastreuse. Les Israélites crient à l'Éternel. Alors, on n'a pas le temps de faire tous les textes et tous les récits. Mais en deux, voire trois récits du livre des Juges, lorsque les Israélites crient à l'Éternel, ce n'est pas dans la repentance. C'est tout simplement parce qu'ils en ont marre. Ils sont fatigués, finalement, des conséquences de leur rébellion. Et donc, ce n'est plutôt pas avec un sentiment de regret qu'ils viennent vers l'Éternel, mais pas avec la repentance. Il faut faire très attention lorsque on voit les personnes qui semblent vraiment émotionnellement troublées au point de vouloir mettre leur vie en règle avec Dieu. Il faut avoir le discernement pour savoir la différence entre regret, repentance. La différence entre larmes de repentance et larmes de lassitude. Il y a une différence énorme. Et ici dans le livre des Juges, nous avons les deux. Et lorsque c'est les larmes de la lassitude, parce que le peuple en a marre, Dieu les... Mais ça fait déjà 7 fois que je vous ai délivré. Et pour l'instant, ça n'a rien servi. Ou devant les larmes de lassitude, il leur envoie un prophète pour leur rappeler des leçons. Israël crie à l'Éternel. Dans certains cas, c'est vraiment un cri de repentance, on peut être reconnaissant. Et puis, puisque c'est un livre de salut, l'Éternel suscite aux Israélites un libérateur qui les sauve. Et l'histoire se termine souvent. Israël connaît une période de 40, 80 ans, 40 ans de paix, mais parfois différemment. Parce qu'au fur et à mesure du déroulement du livre des Juges, on se rend compte que le problème n'est pas avec le peuple. Le problème, c'est avec les juges. Le problème n'est pas avec le peuple. Le peuple est avec le libérateur. Et nous allons le voir. Alors voilà un tableau de l'ensemble. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. C'est un peu petit. On ne peut pas faire autrement. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est vrai dans tous les cas de juge, sauf Abimelech. Abimelech, c'est page blanche. Tout le long. Tout le long. Mais que ce soit du temps d'Othniel et ou Déborah, Gédéon, Jephthé ou Samson, les Israélites firent le mal. À chaque fois, Dieu les livre entre les mains de leurs ennemis. Le roi de Mésopotamie pour Othniel, les Moabites pour Ehud, les Cananéens pour Déborah, les Madianites pour Gédéon, les Ammonites pour Jephthé et les Philistins pour Samson. Tous ces ennemis ont leur importance dans l'histoire d'Israël. Alors ça, on ne peut pas développer. Mais je vous invite à la réflexion suivante. À l'époque, on conduisait toujours la guerre. Non, je commence autrement. L'athéisme n'existait pas. Et à l'époque, on conduisait toujours la guerre au nom d'une divinité, au nom d'un dieu. Donc, que ce soit pour les Philistins, Dagon, que ce soit pour les Ammonites, Moloch, que ce soit pour le roi de Mésopotamie, Dagan, et ainsi de suite, il y avait toujours une divinité. Et ils avaient finalement ces prières, ces sacrifices, ces offrandes à leur divinité avant de partir à la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils partaient à la guerre avec des croyances et avec des valeurs. Ce n'était pas tout simplement le pouvoir et de conquérir. Ils voulaient imposer une façon de voir. Et si vous lisez l'histoire de l'Antiquité, surtout jusqu'à la fin de l'Empire grec, vous vous rendrez compte que pratiquement tout ce qui s'est passé sur le plan de l'histoire, dans les batailles, c'était des batailles menées au nom des croyances et au nom des valeurs. Et lorsque vous menez une bataille avec des croyances et avec des valeurs, c'est pour les imposer aux autres. Et donc ce qui est intéressant dans le récit des juges, c'est de savoir, mais quelles étaient les croyances des Mésopotamiens? Quelles étaient les croyances des Moabites? Quelles étaient les valeurs des Ammonites? Qu'est-ce qu'ils voulaient imposer à Israël? Et là, nous nous rendons compte que finalement, il y avait toujours une volonté de conversion, ou de prosélytisme, comme on l'appelle. Ils voulaient imposer leur façon de voir. Donc ce n'était pas tout simplement de conquérir le territoire et dire, voilà, on a ajouté autant de kilomètres carrés. C'est pour conquérir des cœurs et des esprits. C'est très différent. Très différent. Et donc, Dieu les a vendus entre les mains de leurs ennemis, et ces ennemis sont arrivés avec leurs croyances et leurs valeurs. Les Israélites crient à l'Éternel, dans tous les cas, sauf dans le cas de Samson, parce que Samson, c'était un one-man show. Samson, il agissait seul, hein, il s'en fichait des autres. Il se suffisait à lui-même, et donc il n'avait besoin de personne. Et puis finalement, l'Éternel suscite aux Israélites un juge, et puis pour les quatre premiers, le pays fut tranquille pendant un certain nombre d'années. Pendant le temps de Jephthé, 6 ans, très peu, et Samson, n'en parlons plus. Voilà donc le menu du livre des juges. Rapidement, choix improbable des juges. L'ironie. Othniel était le fils du frère cadet de Caleb. Il ne devait pas être juge ou sauveur. Il ne devait pas mener. Il avait quand même le droit d'aînesse, normalement. Dans l'Écriture, Dieu régulièrement renverse nos idées. il choisit finalement Jacob plutôt que Ésaü. Jacob a choisi Ephraïm plutôt que Manassé. Il y a de ces renversements surprenants dans le fonctionnement, la stratégie de Dieu. Et dans le cas d'Othniel, il était le fils du frère cadet de Caleb, dans la tribu de Juda. Et c'est lui qui a mené l'armée. Remarquable. Ehud, de la tribu de Benjamin. Benjamin veut dire fils de ma droite. Ehud ne se servait pas de sa main droite. Il était gaucher. Heureusement. Ah, heureusement. Et si je dis heureusement, je vous laisse découvrir pourquoi. Lisez le récit attentivement et vous verrez. Heureusement qu'il était gaucher. Déborah. Une femme. Une femme remarquable. Prophétesse. Et ses prophéties se sont réalisées. Magistrat qui, finalement, réglait les situations conflictuelles. On allait la rencontrer sous son palmier à Bethel, près de Bethel. Mais elle s'est rendue compte que ce n'était pas son rôle de mener le peuple dans le combat. Et donc, elle appelle Barak. Barak vient et Déborah lui dit, « Écoute, tu vas aller avec autant d'hommes sur le mont Tabor contre Yabin et Sisera. » Barak tremble dans ses culottes. « Si tu viens avec moi, j'irai. Si tu viens pas avec moi, j'irai pas. » Il y a finalement une psychose de maman. Il fallait absolument que sa maman lui tienne la main. Mais finalement, il part. Mais Déborah lui dit, « Écoute, Barak, d'accord, j'irai avec toi. Mais sache que la victoire appartiendra à une femme. » Et en disant ça, elle est en train de dire, « C'est anormal. » Parce qu'une femme ne doit pas, finalement, mener dans les affaires militaires. Ce n'est pas son rôle. Et d'ailleurs, ce n'était pas Déborah qui a reçu la gloire. C'était Yaël qui a percé la tempe de Sisera avec, finalement, un pieu et un marteau. Je regrette de faire un cours extra-cathédra, comme aujourd'hui. J'aurais aimé plutôt une série de vidéos. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de voir en live ce qui se passe. Déborah. Femme remarquable. Qui, en son genre, avait des capacités au niveau de leadership, sur le plan juridique, qui était prophétesse, mais qui ne devait pas conduire le peuple dans la guerre. Personnellement, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Mais pour moi, c'est l'une des raisons pourquoi j'estime que le rôle de pasteur et d'ancien ne revient pas à une femme, parce que c'est un statut de combattant d'être pasteur et ancien dans une église. Ils sont sur le front, ils mènent le peuple dans le combat. Mais cela n'enlève en rien à ce qu'il y ait des rôles très importants pour les femmes aussi dans l'œuvre de Dieu. Gédéon, il le dit lui-même, il était le plus petit dans la maison de son père. Bon, il avait des serviteurs, donc il avait quand même certains biens. Mais il se considérait comme étant vraiment l'un des mineurs dans la maison familiale. Abimélec. Oh, mais on viendra sur Abimélec demain. Jephté, un bâtard, le fils de Gad ou de Galad et d'une cananéenne, peut-être même ammonite, mais quelqu'un qui avait un problème d'identité, qui s'estimait peu aimé, peu respecté, qui était chassé de la maison par ses autres frères au moment où l'héritage devait avoir lieu. Et donc, il s'est enfui de la maison, il s'est réuni avec une bande de vauriens dans les montagnes, devenu brigand, jusqu'au moment où, finalement, la tribu de Gad l'appelle pour conduire contre les Ammonites. Mais c'était un type avec un problème d'identité. Ils se sentaient mal. Et à un moment donné, lorsque finalement les Galadites lui ont dit « Mais deviens notre chef », il dit « Je veux bien, mais est-ce que vous me nommerez chef à vie ?»« Ah oui, vous me nommerez chef à vie ?»« Ben c'est très bien, on va aller à Mitzpah, et c'est là où on intronisait les rois. » On va aller à Mitzpah, et là, nous allons prononcer toutes ces paroles devant l'Éternel pour que je sois intronisé à vie. Problème d'identité. Et Samson, oh, Samson, un faible, il couchait avec tout ce qui bouge. Un faible. Le choix de Dieu. Ah! Ah! Quel juge est-ce que nous trouvons dans Hébreux 11? Quel juge est-ce que nous trouvons dans Hébreux 11? Oh, mais ne cherchez pas, ça va vous prendre une heure pour trouver Hébreux 11. Donc, il s'agit de Barak, de Gédéon, de Jephté et de Samson. Heureusement que l'inspiration de l'écriture ne dépendait pas de moi. Parce que je ne les aurais jamais mis. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Othniel? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Ehud? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Déborah? Mais Barak! Barak! Qui dépendait des ficelles de sa maman. Hébreux 11 n'est pas le récit des plus glorieux dans l'histoire. Hébreux 11, ce sont les récits de la fidélité de Dieu et de la grâce de Dieu. Parce que dans Hébreux 11, nous trouvons ces personnages-là, Barak, Gédéon, Jephté et Samson, dont la foi est à imiter. Surprenant. Surprenant. Et puis, les grands thèmes du livre. Alors, vous qui aimez la littération. Les grands thèmes du livre, la fragilité du peuple d'Israël. Évident, évident. Israël fit à nouveau le mal aux yeux de l'Éternel. Israël est fragile. Fragilité. Deuxièmement, fidélité de Dieu. Dieu est touché par leur prière, leur cri, même leur fausse repentance. Et il intervient pour susciter un sauveur, un libérateur, la fidélité de Dieu. Troisièmement, fratricide. Fratricide. Constamment, dans ce livre, Abimélec, que fait-il? Eh bien, il massacre les 70 moins un fils légitimes de Gédéon, pour qu'il puisse, lui, se réclamer du pouvoir. Il est massacre. Jephté. Jephté. Problème d'identité, ce type-là. Et puis, il avait un problème d'accent. Lorsque les Éphraïmites lui reprochaient de ne pas les avoir appelés pour se joindre à lui dans la bataille contre les Ammonites, Jephté, il est parti avec un quart de tour. Et il a voulu empêcher les Éphraïmites à retraverser le Jourdain. Et il voulait savoir, est-ce que les Éphraïmites, est-ce qu'ils ont finalement un accent de La Rochelle ou de Marseille, hein? Ça, c'était la question. Comment est-ce qu'ils vont dire pain? Pain ou pain? Comment est-ce qu'ils vont dire? Et en fonction de leur accent, ils massacrent tous ceux qui sont manifestement Éphraïmites. Et ils massacrent 42 000 Éphraïmites. 42 000. Et puis Jephté, il offre sa fille dans le feu. Hein? C'est pas tout simplement qu'elle danse sur le feu pour savoir si elle arrive à s'en sortir. Il l'offre dans le feu. C'est un sacrifice humain. Interdit par Dieu, d'ailleurs. Et puis, on arrive à la fin du livre des juges. Il y a un acte de discipline contre la tribu de Benjamin. Et Israël, finalement, comme un seul homme, se livre contre les Benjaminites. Il y a trois batailles et pratiquement toute la tribu de Benjamin est massacrée, sauf 600 hommes. Fratricide. Fratricide. Les grands thèmes du livre des Juges: fragilité, fidélité, fratricide. Et puis, maintenant pour la partie plus difficile. J'ai presque envie de vous demander de vous lever pour la suite et de rester debout. Seule manière de garantir que vous allez peut-être me suivre. Mais je vais vous parler de quelque chose d'un peu particulier, mais qui nous permet peut-être de mieux saisir ce livre des Juges. Un chiasme. Vous ne connaissez peut-être pas le terme, mais vous savez ce que c'est. C'est le parallélisme qui existe. On l'utilise souvent dans le langage courant pour faire des comparaisons, des contrastes, et c'est pour pouvoir dire les choses de telle sorte que les personnes s'en souviennent, les mémorisent. Vous savez, à l'époque, c'était tradition orale. On est finalement 1500 avant Jésus-Christ. Et donc, les personnes n'avaient pas les textes d'écriture avec versets et chapitres. C'est seulement au XIIIe siècle qu'on avait les chapitres et les versets. Donc on avait les manuscrits longs. Et donc il y avait des personnes qui racontaient des histoires, des personnes qui relataient, comme dans beaucoup de nos villes autrefois, il y avait des personnes qui relataient des nouvelles, criaient avec la cloche et donner des actualités. À l'époque, il n'y avait pas de traitement de texte où on pouvait faire en gras ou en italique, en souligné, en rouge et en bleu et en noir. Tout ça, ça n'existait pas. Comment permettre à ce qu'un peuple puisse apprendre, comprendre, retenir la parole? Il faut reconnaître qu'à l'époque, les personnes mémorisaient beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Mais il fallait leur donner des outils pour mémoriser, pour qu'ils puissent mémoriser facilement. Et le chiasme est une figure de style qui existe depuis le XIe siècle avant Jésus-Christ. Je le sais parce que j'ai dû faire une étude là-dessus. Depuis le XIe siècle avant Jésus-Christ. C'est les Chinois qui étaient à l'origine de ce phénomène, de cette figure de style. Et c'est une manière de relater en mettant finalement ensemble des comparaisons ou des contrastes pour que les personnes retiennent plus facilement les leçons. Alors je vais vous donner quelques chiasmes que vous connaissez. L'homme peut être détruit, mais non vaincu. L'homme peut être vaincu, mais non détruit. Ou, ça c'est, oh, j'ai marqué inconnu là, mais ça devait être un français. Nous devrions manger pour vivre et non vivre pour manger. Hérodote, philosophe grec, en temps de paix, les fils enterrent les pères, en temps de guerre, les pères enterrent leurs fils. Ou encore, Kennedy, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Amy Carmichael, missionnaire, tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans donner. Nietzsche, pas très joli, mais tout aussi pertinent. L'homme est-il l'une des bévues de Dieu, ou Dieu est-il l'une des bévues de l'homme? Ça, c'est les chiasmes, où on met ensemble les phrases parallèles pour contraster des idées, pour faciliter la mémorisation. Et dans l'écriture, le chiasme est utilisé régulièrement. Dans les poésies, dans les proverbes, mais aussi dans l'évangile. Je vais vous donner une illustration. Les deux premiers chapitres de l'évangile de Luc sont particuliers. Heureusement que Luc a fait des recherches, parce que tout ce que vous trouverez dans les deux premiers chapitres de Luc, vous ne les trouverez pas ailleurs. Et Le chapitre 1 de Luc commence avec un vieillard dans le temple. Du nom de Zacharie. À la fin du chapitre 2, nous terminons avec un garçon dans le temple du nom de Jésus, 12 ans. Et Luc fait exprès, dans ces deux chapitres, finalement, de faire le contraste entre le vieillard et le garçon. C'est la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, vous voyez. Luc a fait tout son évangile sur ce principe. Mais je vais vous donner d'autres illustrations. Genèse 9, 6. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Donc il y a souvent des versets comme ça qui mettent en contraste les idées, qui mettent en parallèle les idées. Ou vous avez encore « Rend insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voit de ses yeux, n'entende de ses oreilles et ne comprenne avec son cœur. » Ce n'est pas un accident de parcours, tout cela. Le Dieu qui a inspiré l'Écriture nous a donné également des formes littéraires, narratives, poésie, proverbes, prophéties, et ainsi de suite, histoire. Et tout cela, il se sert de ces genres littéraires pour transmettre la vérité divine. Mais l'un des outils utilisés à l'époque pour faciliter la compréhension et la mémorisation, c'était le chiasme, où on mettait ces phrases en parallèle. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez, c'est toujours ce phénomène de parallélisme qui existe. Et maintenant, je vais probablement vous perdre, mais on y va, dans le livre des juges. Comment est-ce que nous lisons le livre des juges? Alors, quand on regarde, il y a 6 récits héroïques. Nous les avons cité déjà à plusieurs reprises, Othniel, Ehud, Déborah, Gédéon, Jephthé, Samson. Ces récits se transmettaient de bouche à oreille. Mais dans la suite de la rédaction de ce livre des juges, nous nous trouvons devant un phénomène. Autour de ces récits, il y a 2 introductions et 2 conclusions. Ça doit nous interpeller. S'il y avait 2 introductions et 1 conclusion, on ne se serait pas posé la question. Et puisqu'il y a 2 introductions et 2 conclusions, ah, cela doit finalement nous interpeller. La première introduction relate le phénomène géopolitique, la faillite, l'échec de la consolidation. À part Judas, c'est échec sur échec. Tel ou tel, Éphraïm ne dépossèda pas, Naphtali ne dépossèda pas, Aser ne dépossèda pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une explication de l'échec. La deuxième introduction, à partir du chapitre 2 et verset 6, ça explique pourquoi il y a l'échec. Israël fit à nouveau le mal. Dieu les vendit entre les mains de ses ennemis. Lorsque le peuple crie à l'Éternel, il suscite un juge. L'éloignement et l'échec est expliqué par leur éloignement de Dieu. Et puis nous avons 2 conclusions. Alors, je ne sais pas si vous avez aimé l'histoire à l'école. Moi pas. Parce que l'histoire était enseignée de manière ennuyeuse par un professeur ennuyeux et le contenu n'était pas du tout intéressant. Parce que c'était une série de dates, et je m'en moquais carrément de ces dates. Ça ne m'apprenait rien du tout. L'histoire doit nous apprendre les leçons. Et ici, dans la composition du livre des juges, je vais vous surprendre en vous disant que les deux conclusions ne sont pas dans la chronologie du livre, ne se passent pas à la fin du livre des juges. Normalement, nous pensons que l'histoire, c'est en 1956, 1958, 1968, 2000, 2000, et ainsi de suite. C'est linéaire. Mais ce n'est pas linéaire ici. Les deux conclusions ont lieu en début de la période des juges. Parce que le compilateur de ce livre veut nous faire comprendre des leçons. Et donc, il a tiré deux incidents du début du livre des juges, de la période des juges, pour les mettre à la fin du livre. Et pour preuve de cela, il y a déjà au chapitre 18 où il est question, et je vais le trouver, je me suis laissé aller avec mes notes. Voilà. 18:30, où nous lisons, et écoutez bien la lecture, vous suivez. Les fils de Dan dressèrent pour eux la statue, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse, lui et ses fils furent sacrificateurs. Dans votre version, vous avez probablement Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé. Alors, c'est une question de consonne, parce qu'effectivement, dans les plus anciens manuscrits, il s'agit de Moïse. Ici, nous avons le petit-fils de Moïse qui, lui-même, trahit la prêtrise. Et Jonathan était encore un jeune homme, nous dit le texte, en début du chapitre 18. Et puis, ensuite, nous avons, au chapitre 20 et le verset 28, et c'était Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Dois-je encore me mettre en campagne contre le fils de Benjamin ? Nous avons là le petit-fils d'Aaron, Phinéas. Donc, dans ces deux conclusions, nous avons deux Lévites. Et les deux Lévites sont les deux petits-fils des deux acteurs principaux de l'Exode, Moïse et Aaron. L'un qui tourne mal et l'un qui tourne bien. Et donc, ces deux conclusions, manifestement, puisqu'il s'agit du petit-fils de Moïse et du petit-fils de Aaron, ont eu lieu tôt dans l'histoire des juges, dans la période des juges. Et le compilateur de ce livre les a mis à la fin pour illustrer, finalement, le déclin du peuple tout au long de cette période des juges. Autrement dit, il ne raconte pas son histoire de façon linéaire. Il raconte son histoire de façon thématique pour nous montrer le déclin du peuple. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. C'est dans les deux conclusions. Israël fit le mal et le compilateur trace le mal au travers du livre des juges et il termine en disant « Oui, même le petit-fils de Moïse se prostitue pour l'argent parce qu'il devient prêtre d'un seul homme, Micah, qui est un idolâtre. Mais par la suite, il devient prêtre d'une tribu, la tribu de Dan, qui migre vers le nord et qui mène toute la tribu dans l'idolâtrie, dit le texte. Ça, c'est le petit-fils de Moïse. Heureusement, il y a le petit-fils d'Aaron, Phinéas, qui, lui, jusqu'au bout, est fidèle. Il n'y a pas succession apostolique dans les familles chrétiennes. Il n'y a pas de garantie. Il faut transmettre fidèlement d'une génération à l'autre, et manifestement, Gershom, qui veut dire un étranger, un immigré, ne s'est jamais senti bien accepté. Lui aussi avait des problèmes d'identité. Jonathan, son fils, devient prêtre, mais il ne réside même pas dans une ville de Lévite. Et il cherche finalement une paroisse où il sera bien payé. Et il va chez Mika, qui l'appelle mon père, et qui lui donne l'argent, les vêtements, la nourriture. Mon père! Et puis dès le moment qu'on lui propose un poste plus important en Californie, il part. Alors nous avons deux introductions de conclusion. Alors moi je vais conclure. Je voudrais vous montrer l'importance de ce que je suis en train de dire. Dans la première introduction, une question est posée par rapport à la conquête de Canaan ou l'étape de la consolidation. Nous voici 12 tribus. Qui montera d'abord pour prendre possession de son territoire? Question est posée. Chapitre 1, verset 1. La réponse est donnée. Judas. Mais, dans la deuxième conclusion, nous avons aussi une question qui est posée par rapport à cette horreur qui s'est produite à Gibéa avec les Benjaminites. Qui d'abord montera contre les Benjaminites? Et la réponse est donnée, Judas. Il y a une proéminence de la tribu de Judas dans ce livre des Juges. Et cela n'est pas étonnant quand on connaît la promesse et la bénédiction faite par Jacob sur Judas dans la Genèse. Mais ce qui est intéressant dans le chiasme, c'est que lorsque, au chapitre 1, la question est posée, qui montera d'abord pour prendre possession du territoire, la réponse est Judas, et Judas monte contre l'ennemi. Tandis que, lorsque la question est posée dans la deuxième conclusion, qui montre d'abord, Judas monte contre les frères. Vous voyez le thème? Du début du livre, la question est posée, et c'est le bon combat contre l'ennemi. À la fin du livre, c'est le fratricide. C'est contre les frères. Et j'ai vu ça maintes fois depuis 60 ans en France. Combien souvent, et j'ai participé à plusieurs implantations d'églises pionnières depuis 1967 à Paris, et j'ai vu ces églises grandir. Je parlais avec Gilbert l'autre jour. Nous étions à 67 à Paris. Toi, tu étais ancien de l'Assemblée qui venait de naître avec Choiquier. Et à la fin d'une première année où Choiquier nous poussait à prier pour une âme par semaine de se convertir, à la fin de la première année, il y avait une soixantaine de personnes dans cette assemblée de Paris Nation. Et cette assemblée de Paris Nation s'est détruite par le fratricide maintenant. Et nous sommes 60 ans plus tard. Nous pouvons commencer avec le bon combat, et trop souvent avec finalement l'habitude d'être les uns avec les autres, les histoires de famille, les jalousies, en terminant le mauvais combat, le fratricide. Bon, j'aimerais bien continuer. La deuxième introduction, c'est l'idolâtrie qui est mentionnée comme étant le problème de base. L'idolâtrie. Israël fit à nouveau le mal aux yeux de l'Éternel. C'est l'explication de l'échec de la première introduction. L'idolâtrie. Mais, dans la première conclusion, avec Jonathan, petit-fils de Moïse, l'idolâtrie devient systémique, systématique, partout. Et dans la deuxième introduction, lorsqu'on fait le constat que c'est l'idolâtrie, quelle est la solution qui est proposée? Quelle est la solution qui est proposée? Il faut chercher Dieu. Vous lisez la deuxième introduction. Il faut chercher la face de Dieu. Quelle est la solution proposée dans la première conclusion? Lorsqu'on constate que l'idolâtrie est systémique, quelle est la solution? On cherche un homme, un roi. Ça aussi, c'est une thématique dans le livre des Juges. On commence bien devant le problème à se tourner vers Dieu. Et petit à petit, au fur et à mesure, on dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et on cherche un homme. Quand je suis arrivé à Genève en 1991, pour être directeur de l'Institut biblique, je me suis trouvé encore avec une génération de personnes qui se souvenaient du fondateur de l'Action biblique, H.E. Alexander. Et ce que j'entendais régulièrement devant les difficultés au sein de l'Action biblique, les jalousies, les luttes intestinales, et ainsi de suite, c'est ce que j'entendais régulièrement. Ah, si seulement le fondateur était encore là. Ce n'est pas mieux chez vous. Parce que moi, je suis né dans des assemblées d'arabistes. Et moi, je me souviens de toute mon enfance dans ces assemblées. Où finalement, on regardait vers les hommes. Que ce soit un Darby, un Kelly ou autre. Devant l'idolâtrie, il y a une seule solution. C'est retour vers Dieu. Et si devant l'idolâtrie, on croit qu'il nous faut un homme, on est déjà dans la ultra, hyper idolâtrie. Ça, c'est le thème. C'est le chiasme. Bon, je vais abuser de votre temps. Othniel. Othniel, juge modèle. Qu'est-ce qu'on constate chez Othniel ? Un homme qui était un guerrier, un homme qui était prêt à partir au combat. Et à un moment donné, Caleb dit, celui qui partira dans le combat contre Éphi-Séphir, je lui donnerai ma fille en mariage. Elle devait être belle, cette fille, parce qu'elle est partie tout de suite. Et il a remporté la victoire, il est revenu, et Caleb lui a donné sa fille, Aksa, en mariage. Si vous cherchez un nom pour votre fille, ou petite fille, pensez à Aksa, incroyable. Mais en tout cas, une femme remarquable. À un moment donné, lorsqu'elle s'est mariée, elle dit à son mari, écoute, Othniel, on a quand même pas mal de terres, mais tu ne peux pas dire à ton beau-père, à mon papa, de nous donner encore quelques terres. Ah bon ? Elle n'attend même pas. Elle saute de son âne, elle va vers Caleb et dit, papa, on a besoin encore de quelques terres et de quelques puits pour irriguer nos terres. Sans problème. Les filles savent comment faire avec les pères. Les pères ne peuvent pas résister à leurs filles. Hein? Il a eu un mariage extraordinaire. Et ça explique, et je vous le promets, ça explique la victoire. Parce que si vous tracez le problème de mariage dans le livre des juges, c'est catastrophe. Et vous arrivez donc à Samson. Mariage au pluriel, sans parler des prostituées entre deux. Une faiblesse extraordinaire. Et nous savons tous dans l'histoire de Samson ce qui explique qu'il n'a remporté qu'une victoire très partielle. C'était ce côté finalement amour pour les femmes. Mauvais mariage. Mauvais mariage. On va voir un autre mauvais mariage demain. Si vous venez. Éhoud, il combat contre les Moabites. Qui était Moab? Moab vient de qui? Il était le fils de qui? Ah, mais je vous donne un indice. Il était le fils et le petit-fils du même bonhomme. Oh, fallait le faire. Il était le fils et le petit-fils de Lot. Et lui, il combat contre les Moabites et il appelle les Éphraïmites pour le secourir et l'aider et empêcher les Moabites de rentrer chez eux. Mais il y a Jephthé. Lui, il combat contre les Ammonites. Ammon, il était le fils et le petit-fils de qui? De Lot. Alors nous avons les deux fils et petits-fils de Lot, Moab et Ammon. Et ce qui est extraordinaire dans ces deux histoires, c'est que les deux histoires ont duré 18 ans, dit le texte. Donc ça doit attirer notre attention aussi. Mais Jephthé, à l'encontre de Éhoud, il part en guerre contre les Éphraïmites et il massacre 42 000. L'un se sert des Éphraïmites comme un allié, l'autre comme un ennemi fratricide, encore une fois. Allez. Sisera et Abimelech étaient tués par les femmes, les têtes fracassées. Oh, fabuleux. Jephthé qui prend un... Yael qui prend un pieu et traverse le crâne de Sisera, et puis une femme sur le mur du village qui lâche une pierre de meule sur la tête d'Abimelech fracassée. Deux têtes fracassées par les femmes. Dans l'histoire de Déborah, Déborah dit à Barak, d'accord Barak, j'irai avec toi, mais la gloire ira à une femme. Et dans l'histoire, finalement, d'Abimelech, Abimelech est gravement blessé par cette pierre de meule qui lui tombe sur la tête. Et il dit à son compagnon d'armes, « Tue-moi, qu'il ne soit pas dit que j'ai été tué par une femme. » Et là, on voit le rôle aussi des femmes dans ce récit des juges. Et en dernier lieu, il y a notre ami Gédéon, démarre très bien. La nuit même où Dieu l'appelle à le servir, il abat l'autel de Baal sur la propriété paternelle et il dresse l'autel pour l'Éternel. Excellent, bravo. Il termine mal, parce qu'après la victoire sur les Madianites, il prend une partie du butin, il construit un éphod, il le dresse dans sa ville natale, à Ophra, et cet autel devient un sujet de prostitution et d'idolâtrie pour lui, sa famille et tout Israël. Démarre bien, termine mal. Alors ça, c'est juste un survol de ce qu'est le chiasme dans le livre des juges. Mais on pourrait, dans tous ces domaines, donner beaucoup, beaucoup plus de détails. Parce que c'est thématique, le livre des juges. Ce n'est pas l'histoire linéaire. C'est le déclin du peuple. C'est le déclin des juges. Et le compilateur de ce livre, divinement inspiré, veut nous démontrer que cette période était une période catastrophique pour le peuple d'Israël. Mais que Dieu est toujours intervenu par fidélité pour sauver son peuple. Toujours pour sauver son peuple. Juste cela, pour terminer aujourd'hui. C'est le déclin des juges. Parce que je dis que finalement, à un moment donné, ce sont les juges qui étaient le problème en Israël. Pas seulement le peuple. Premier juge, Othniel, il était en place comme commandant militaire. C'était un homme aguerri. Oh, je ne dis pas qu'il était parfait, mais aucun reproche ne lui est adressé dans le texte. Idem pour Ehud. C'était un solitaire, c'est vrai. Il est parti seul contre Eglon, roi de Moab. Le peuple s'était accommodé à Eglon, un homme très gras, et à qui on rendait des impôts tous les ans. Et Ehud, à un moment donné, il en avait marre. Et donc, lui, il décide que ça ne doit plus continuer comme ça. Et donc, tout seul, il va confronter Eglon. Et lorsqu'il confronte Eglon, il lui tire l'épée dans ce ventre très gras et toute l'épée entre là-dedans et la graisse se renferme autour et les entrailles tombent par terre. Il était finalement dans le petit coin privé, les WC à l'époque. Et donc, Ehud lui ferme la porte à clé pour que personne ne le trouve tout de suite. Et les serviteurs viennent après, frappent à la porte. « T'es là ?» Pas de réponse. Et finalement, entre-temps, Ehud s'enfuit, échappe, appelle les Éphraïmites et coupe finalement le passage à tous les Moabites. Ehud, un solitaire, il agit seul, mais il a très très bien fait. Déborah Barak, une femme sage, spirituelle, catalyseur pour motiver Barak. Et Barak qui part au combat, mais sans les qualités de ses prédécesseurs. Gédéon, comme nous le verrons demain, oui, il a bien démarré. Mais Gédéon, c'était un incrédule, un craintif, un vengeur et un orgueilleux. Je vais perdre l'auditoire demain. Et puis nous avons le tyran, Abimelech, mégalomane, c'est autoproclamé roi. Il y avait déjà depuis Gédéon, finalement, jusqu'à la fin, un début de monarchie, mais les personnes qui voulaient être rois, même Gédéon. Et puis après Abimelech, Jephté, un marginal, un blessé, mauvaise image de soi, besoin d'assurance, constamment besoin d'être reconnu, accepté, approuvé, et sans son. Solitaire, doué, mais faible, instable, vengeur, imprévisible. Mais, Barak, Gédéon, Jephté et Samson se trouvent dans Hébreux 11, la grâce de Dieu. Le livre des juges est un livre de salut. Et le salut imprègne toutes les pages du livre des juges. Mais le salut est mis en relief contre la rébellion, le péché, la désobéissance du peuple. Et dans ce sens-là, c'est un livre fort utile pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Si vous avez une question, je veux bien donner la parole à Philippe pour répondre. Sinon, puisque demain, au moins, ce que je vous suggère pour demain, nous allons aborder le récit de Gédéon. Parce que c'est l'un des récits les plus méconnus du livre des juges. Et j'aimerais au moins aborder le récit de Gédéon, et peut-être aussi Ehud, si nous avons le temps. Est-ce qu'il y a une question sur ce qu'on a vu aujourd'hui ou pas ?